Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks. Un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, nos vies de vacanciers. Et aujourd'hui, sur les dunes de Kerema, un documentaire de Christelle Le Polotec réalisé par Diffie Mariani. Parfois, on cherche un endroit pour y faire son trou. Un endroit où construire quelque chose, faire grandir une idée et laisser une trace. Et puis parfois, ça se fait. On s'installe, on élève des murs, on plante des arbres, on monte des cloisons pour les enfants, pour les cousins, pour les grands-parents. Et la famille s'agrandit, les enfants deviennent grands, chacun prend racine, ajoute son mur, sa petite maison et ça continue, d'autres enfants, d'autres maisons. Et là-dessus, s'inventent des habitudes, des rituels, et puis au bout du compte, on a comme une drôle de colonie, une famille élargie, un peu étouffante peut-être, un peu excluante sans doute, un peu en vase clos, et avec ses travers, sa marque de fabrique, ses blagues, sa chaleur et ses histoires transmises de génération en génération. Et bien sûr, avec des dissidents, des pièces rapportées, et que ce soit en Sicile, en Russie, à la montagne ou en Bretagne, c'est partout pareil. Alors, troisième volet, voici un exemplaire de tribu finistérienne.
C'est une lande sauvage, à perte de vue.
Et tout ça, c'était totalement nu, sauf les petites fermes.
Et là-bas, vous avez donc Porzguen, le port, on voit la cale en fait.
Ça a été le premier travail de Louis Rousseau, ça avait été de planter la dune.
Le sable, il est d'une blancheur éclatante et très très fin, il file dans la main. On le prend comme ça, et ça...
On sait qu'il a planté du cerf polaire, on sait qu'il a planté du lotier corniculé.
Mais ça, c'était au tout début de l'utopie de Louis Rousseau, de reproduire une société qui était idéale avec son école, son hôpital, et puis une espèce d'autarcie. Mais bon, ça s'est tombé à l'eau quand même assez rapidement.
Sur les dunes de Kerema, Diffie Mariani, Christelle Le Polotec.
Quand j'étais petite, quand on arrivait à Kerema, il y avait des vieux oncles et des vieilles tantes. Et on n'imaginait pas commencer notre séjour de 2 mois à Kerema sans aller dire bonjour à toutes les vieilles tantes dans les maisons.
C'est un endroit qui peut provoquer des phénomènes de rejet. On peut détester.
Et quand on repartait, on allait aussi leur dire au revoir.
C'est des souvenirs banals. C'est les premières amours, c'est les premières amitiés.
Les vacances se font beaucoup aussi. Sur la grève,
c'est des souvenirs de sport.
Autrefois, on se réunissait par bande de cousins à peu près du même âge.
C'est une famille assez diverse, assez typée aussi. Il y a un nombre d'ecclésiastiques, de militaires sans doute supérieur à la moyenne.
Non, les choses ne sont pas toujours simples. On sait, il y a eu pas mal de mariages entre cousins, en général cousins lointains. Même quelquefois très lointain.
On a l'impression que tout appartient à tout le monde, mais c'est faux. Il n'y a que des propriétaires, carrément.
Ça se vend pas, ça ne fait que se transmettre.
Il n'y a personne ici.
La palue, c'est cette espèce de mélange d'herbes rases et de mousse, et de chardon aussi, beaucoup.
Voilà, donc Kerema, c'est un ensemble de gens.
On a toujours boisé à Kerema.
Les gens viennent massivement au 15 août.
Mais c'est dans le rêve de tous d'avoir une maison à laquelle ils aimeraient bien.
Il n'y a pas de clôture.
Ce qui a changé, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. C'est qu'il devient très difficile de connaître tout le monde.
Ce qui fait que c'est un peu tordu comme histoire. Il y a beaucoup de choses tordues à Kerema.
6 kilomètres de dunes, battus par les vents du Finistère Nord, sur le rivage entre Plouescat et Goulvin. Puis, une bande de terre sablonneuse, initialement consacré aux fermes et à l'agriculture, désormais investi par les maisons de vacances des cousins. Et enfin,
de l'autre côté de la route, le parc historique, là où se trouvent les maisons du fondateur et de ses 5 enfants, vieilles bâtisses du 19e siècle, dissimulées au regard par les arbres du parc planté. C'est Kerema, nommée ainsi en hommage à Emma, la femme du fondateur, Louis-Nepomucène Rousseau, un utopiste qui acheta le terrain en 1823 pour en faire un phalanstère. Le phalanstère a fait long feu, mais le domaine, lui, appartient toujours aux descendants de Louis Rousseau, qui depuis bientôt 2 siècles ont fait de Kerema leur lieu de villégiature. Chaque année, lors des vacances, plus de 700 cousins s'y réunissent. Passé maître dans l'art de l'entre-soi, le groupe familial se réunit autour de la transmission de l'héritage patrimonial et moral de Louis Rousseau. L'association des cousins de Kerema publie tous les 4 ans un annuaire où on le retrouve les 2000 descendants du fondateur, conjoints, adresses, professions et âges compris. Un microcosme d'autant plus soudé que les branches familiales s'entremêlent les unes avec les autres à la faveur des rencontres estivales. De même que l'on circule d'une maison à l'autre dans les allées, ou plutôt les longères, du parc historique.
Alors en fait, moi je suis un mélange. Ma mère était de Kerema et mon père était de Kerjan. Mais ce n'étaient pas des cousins très très proches, mais ils étaient quand même un peu cousins.
Muriel Fayot.
Moi ce que je sais, c'est que je fais partie. Je descends des gens de Kerema et des gens de Kerjan, parce que le fondateur, Monsieur Louis-Nepomucène Rousseau, il a fait appel à un frère de sa femme pour lui racheter une partie des terres et pour avoir suffisamment d'argent pour faire, ils ont fait une digue, ils ont pour aménager la dune, parce qu'ici en fait c'était un désert avant. Enfin, il y avait des champs et c'est nos ancêtres qui ont tout fait pousser.
Et ici, donc, on est dans le parc historique avec les 5 premières maisons de Kerema. Donc, vous avez vu la maison d'Ardoise, vous avez vu celle-là, je ne sais absolument pas de quoi elle date.
Dominique Bréon.
Après la maison de Jacques, il y a la maison des Pichons, donc la maison de ma branche. Et puis, il y a une autre petite maison qui est encore derrière. Il y a une autre maison qui est la maison de Louis Rousseau, fils de Louis, le fondateur. Donc ici, vous avez vraiment le Kerema historique, dans lequel on a tous joué. Et c'est d'ailleurs tout à fait émouvant quand on voit nos enfants, nos petits-enfants, qui ont exactement les mêmes jeux que ceux qu'avait mon arrière-grand-père. Quoi. C'est quand même formidable. Aux mêmes endroits, qui jouent dans le fruit, qui tombent dedans de la même façon, qui en sortent tout plein de vases et dégoûtants. Et voilà, comme mon arrière-grand-père a dû le faire.
Comme vous.
Et comme moi, bien sûr que je l'ai fait aussi.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, ça va bien?
Bien.
La fête des parents, par les jours depuis l'on s'y ennuie nullement. Je sais pas le mot de temps, si c'est plus qu'est pas le temps.
Voilà, dans cette grande propriété d'origine dans laquelle s'étaient installés donc 5 frères et sœurs après la mort de Louis Rousseau et de sa femme, il avait été décidé que tout le monde était chez tout le monde. Même si, bien sûr, on ne va pas déranger les gens chez eux, si on essaye d'être poli, on ne leur coupe pas leurs fleurs, enfin, on essaye d'avoir des règles. Mais, donc, ce chemin-là, qu'on appelle la Grande Allée, vous voyez comme elle est grande.
Oui, ça fait 3 mètres de largeur.
Voilà, elle est étroite et évidemment, voilà Jacques, elle est étroite. Mais cette Grande Allée, tout le monde a le droit d'y passer et tout le monde y passe. Les enfants passent à bicyclette toute la journée, en bande. Ça permet à chacun de parcourir tout Kerema sans s'insinuer dans l'intimité des gens. Parce que on ne les voit pas. Alors quand on va passer, vous allez le voir là, quand on va passer devant la maison de Jacques, effectivement, si on voit Jacques est dehors à prendre le café, on dit bonjour. Mais on ne va pas forcément jusqu'à le déranger. On lui dit bonjour de loin. Bonjour mon cher Jacques. Voilà. Ça fait quand même 5 générations, toujours au même endroit. Alors, c'est pas exceptionnel, ça existe dans des tas d'endroits. Mais on essaye de maintenir ça, ça c'est vrai. Et c'est difficile, et c'est de plus en plus difficile, car c'est de plus en plus difficile de, à Kerema de garder cet esprit de... Kerema est à tout le monde, même s'il n'y a que des propriétés privées. Mmh. Voilà.
Vous l'avez dit, Jacques Rousseau, fils d'Henri Rousseau, fils d'Emmanuel Rousseau, fils d'Armand Rousseau, fils de Louis Rousseau.
Mais ça, c'est votre parc ou c'est le parc, c'est commun?
C'est mon parc.
C'est votre parc.
C'est mes 2 hectares. Mais notre maison est une des rares à être à cheval sur, c'est peut-être même la seule, à cheval sur le Frout, puisque notre rivière s'appelle le Frout. Alors on s'est toujours pas mal amusé à planter des arbres un peu bizarres. On a devant nous un hêtre faux. C'est un des arbres assez étonnants.
Et c'est une cabane
pour les gosses extraordinaire. Et ça, tous les gosses de Kerema sont venus se raconter des histoires là-dedans.
Alors, je m'appelle Georges-Éric Touchard. Ma place, je la connais pas exactement, mais je suis descendant assez direct du fondateur de Kerema. Louis Rousseau était un utopiste. Il n'était pas aristocratique. Il était d'origine. Ses parents étaient maîtres de poste, c'est-à-dire aubergistes. Il était officier de marine et il était prisonnier dans les pontons anglais, il a beaucoup souffert, il était catholique de naissance, et je crois que son catholicisme s'est beaucoup approfondi dans la souffrance de la captivité dans les pontons anglais, qui était dure. Et à partir de ça, il a été, comme beaucoup de gens au XIXe siècle, il a essayé de réfléchir à la cité idéale, l'association du travail, du capital, etc., avec un bon saupoudrage, dans son cas, de catholicisme.
Là, on l'a mis sur les pontons, il a pu s'évader, il l'a fait 22 fois, il a toujours loupé. Bon, il voulait s'évader, il s'est évadé. Et puis, une fois rentré, il se voyait partir le plus loin possible de sa famille. Il envisageait de faire une mise en valeur de terres vaines, au vieux sens du terme, c'est-à-dire de terres abandonnées, un peu n'importe où. Il a envisagé la Floride, il a envisagé les Salindières. Assez vite, il s'est axé sur la Bretagne. Il s'est arrêté sur Tréflès et sur Kerema. Avec son idée de phalanstère, Louis Rousseau a fait cette digue, qui est un travail absolument démentiel, puisque la digue fait plus de 500 mètres de long, 6 mètres de haut, 6 mètres de large. Il a tout fait sur sa cassette et celle de ses beaux-parents. Donc, il s'est ruiné dans la bagarre. Il avait sorti de l'influence de la mer un énorme territoire qui fait à peu près 500 hectares. C'est là qu'il aurait voulu faire le phalanstère et qu'il n'a pas réussi parce qu'il s'est ruiné avant. Alors, il voulait faire une tribu chrétienne, il voulait faire des écoles pour les jeunes filles abandonnées, il voulait faire... Il avait plein d'idées très généreuses, la plupart d'entre elles n'ont pas abouti. Et il n'y a jamais eu de phalanstère, c'est remplacé par un esprit familial très ancré, très... et qui continue, alors que malgré tout, ça fait 200 et quelques années qu'il est né, et ça fait pas loin de 200 ans qu'il est arrivé ici.
Attendez, tu te débrouilles,
Alors je vous emmène parce que je trouve que c'est très intéressant de regarder donc les cinq maisons dont je vous ai parlé, qui sont les cinq maisons d'origine de Carême, des cinq enfants, des cinq branches, et d'arriver ensuite sur la génération d'après. Rien qu'en regardant les maisons, on sait qu'on a changé d'époque.
Et donc le 19e siècle, voilà, pour arriver au
20e. On arrive au 20e siècle de notre côté. Et alors, moi je trouve que justement, ces maisons du 20e siècle, elles sont plus ancrées dans la bourgeoisie. La bourgeoisie, la grosse bourgeoisie, quoi, qui a des sous. Ce qu'on appelait parfois la bourgeoisie triomphante. Là, on est en plein dedans, vous allez voir. On se croirait à Deauville. Voilà, on va aller là. C'est une maison assez amusante. Avec cette espèce de petites tours et son clocheton là et puis c'est une maison qui en impose quoi,
hein. Ma maison de famille, c'était en fait la maison de mon grand-père, c'est celle qui est juste au bout du chemin là, l'espèce de manoir, enfin quand vous prenez le chemin qui est là,
Véronique Madinier,
c'est la maison de mon grand-père ça, et avant il n'y avait pas d'eau courante quand j'étais petite. On prenait des bains dans des tubs, là, des baignoires en aluminium dehors.
Donc ça, c'est la maison où vous alliez quand vous étiez petite fille.
On faisait des cabanes avec tous mes cousins. Il y avait des champs en face. Maintenant, il n'y en a plus, en fait. On allait prendre des carottes. Et on se nourrissait de carottes l'été, là. On allait prendre du... Il y avait une serre aussi. On allait piquer du raisin. On n'avait pas le droit. On prenait du raisin et des pommes complètement vertes. Il y a le fruit aussi, on faisait Tarzan sur le fruit, on mettait avec les arbres, sur les arbres un peu truc, on se mettait une corde et il fallait traverser le fruit. On faisait de la tech aussi, la tech c'était le grand jeu, c'est une espèce de cricket comme les Anglais là, le jeu de tech. Il y avait le champ de tech, maintenant c'est une de mes cousines germaines, il est un petit peu derrière là, où tout le monde, on venait jouer, les bandes venaient jouer à la tech. Bon, on faisait. Puis il y avait les booms. Chaque été, il y avait des endroits où on pouvait y être le soir. Il y a eu un truc qui s'appelait la panure. C'était lupanar en verlan. Et c'était des petites maisons. Dans les grosses maisons, il y avait une petite maison où, au-dessus d'un garage, un local où on pouvait tous se retrouver. Donc il y a eu 2-3 années où on allait à la panure, il y a eu la petite maison Fritel, et on se retrouvait tous les soirs. Alors il y avait ceux qui avaient... Alors il fallait rentrer. Moi, on avait quoi ? On avait 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et on y allait, et moi je me souviens que maman, c'était celle qui... J'avais une sœur d'un an de moins que moi. Il fallait qu'on rentre à 10h30 à chaque fois, et on n'arrivait pas à rentrer, évidemment. Et un jour, elle est arrivée avec ses bigoudis et tout ça, mes filles, machin. Et voilà.
Tout le monde a ses souvenirs de grandes maisons, assez inconfortables, où vivaient en même temps plusieurs générations. Les grands-parents, les parents, et puis les frères et sœurs des parents. Alors, comme tout le monde, j'habitais dans la maison de mes grands-parents. On venait dans la maison de mes grands-parents, qui est à côté, c'était des maisons bourgeoises. austère, hein, à l'intérieur, il n'y avait pas du tout le confort moderne, mais vivaient dans ces maisons plusieurs familles. C'est un élément sans doute important du ciment familial, parce que les gens étaient appelés à l'heure du déjeuner par des sons de cloche. Donc les gamins qu'on était se baladaient, en tout cas Alma, puis il y avait les sons de cloche. On se retrouvait autour de grandes tablées avec les grands-parents un peu solennels, les parents, et puis les petites tables avec les enfants. Voilà.
Là, on arrive d'abord à un petit pont absolument mythique, parce que pour nous, les enfants, ça a toujours été formidable de venir jouer ici. Et avec la lombre, il y a des gens que je connais aussi. On est des cousins très éloignés et on s'adore, on est ravis de se retrouver. Raconte ton kérémma, tiens.
Alors moi, je suis Hervé Alain Launay, le fils de Claude, lui-même étant le fils d'Edmond, lui-même étant le fils d'Armand Alain Launay, et lui-même étant le fils d'Hippolyte Alain Launay. Et Hippolyte Alain Launay a épousé la fille aînée du fondateur, c'est-à-dire Louis-Népomucène Rousseau, Cécile. Donc on descend de la branche aînée de Cécile Alain Launay. Voilà. Et vous allez passer un petit peu plus loin devant la maison, dites la maison Launay. Tu leur as expliqué les deux maisons, ouais, tu vas leur expliquer.
C'est la maison si belle.
Non, ah, surtout pas, là, attends, non, non. Non, non. Il y avait deux enfants. Cécile et Edmond, Edmond Alain Launay, mon grand-père, et sa sœur Cécile, qui a épousé Avelot.
Oui, c'était la deuxième Cécile. Mmh.
Et il y a eu un partage. Toutes les deux étaient veuves très vite. Et en 35, à la mort de la grand-mère, Berthe Lavallée, s'est posé le problème de savoir qu'est-ce qui allait se passer de cette maison. Bon, c'est là où il y a eu des...
Des
histoires, des arrangements. Bon, ma grand-mère n'a pas été volée, mais enfin...
On a partagé les maisons.
Moi, je voudrais donner un petit regard.
Oui,
je ne sais
portée,
pas
alors.
Si on vous a parlé du précieux sang, parce que comme vous avez pu le voir, les Kérémayens pensent qu'ils sont des gens importants. Alors donc, ils sont le précieux sang. Et savez-vous comment on appelle les femmes
les hommes
qui partagent la vie du précieux sang? On les appelle les rustines. Je voulais juste donner cette information qui me semble avoir un intérêt.
Donc vous pensez bien que c'est une rustine.
Et elles viennent apporter un peu plus un sang nouveau dans la famille. Voilà.
Quel est votre regard alors sur Kérémma, vous?
Oh, il a évolué au cours du temps, parce que ça fait quand même presque 40 ans, ou plus de 40 ans. Donc au départ, c'était un regard très légèrement méfiant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet endroit plein de bourgeois, un peu beaucoup friqués. J'avais l'impression que c'était bourré de médecins, de golfeurs, de gens qui montaient à cheval, d'avocats, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon trou, bien sûr.
Et tu t'es rendu compte que c'était pas vrai.
J'ai découvert que c'est une multiplicité de gens différents, en fait, et que donc... il fallait petit à petit apprivoiser, connaître mieux certaines personnes que d'autres. Et alors, il y a des tas de strates dans Kérémma. Il y a les gens qui font la fête tous les soirs, qui se retrouvent à 30 ou 40, qui dansent, qui boivent. Et il y a des gens qui sont très en famille, qui se retrouvent. Et donc, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut tout vivre. Et puis, c'est un lieu magnifique, d'abord Kérémma lui-même, et aussi autour. Ce que j'ai découvert au départ, quand je venais avec mes enfants petits, on ne bougeait jamais de Kérémma. La grève, surtout pas la plage, il faut dire la grève. Si on dit la plage, on se fait engueuler par son beau-père. Et on ne sortait jamais. Et petit à petit, on a agrandi notre espace. Et c'est un magnifique endroit. Il y pleut un petit peu trop souvent à mon goût.
On n'arrive pas à comprendre que disait maman, fois. Ça se lève toujours à midi.
Il fait beau plusieurs fois par jour.
D'accord. Moi, je suis très contente de votre intervention. C'est très bien. Pierre, point de vue de la rustine. Hein.
Non, on n'avait pas parlé.
Allez, ça, c'est bien. Salut, Hervé.
Bon, vous voyez grand-père, c'est Martine qui parle. Là. Les jeunes maintenant, ils tenaient. J'entends une rustine là dans la
salle. Elle n'est pas là, la rustine.
Bah, je vais la faire. Qu'est-ce qu'il a
chanté,
la rustine?
C'est
Yannès. Où est la rustine? Non, mais tu as. Je ne sais pas où c'est. Ah, la
Kérémma.
Voilà.
Alors, on commence, on le fait comme ça.
Je fais tout seul le premier, je sais pas où t'habites, de venir chez moi, puis au fur et à mesure on monte. Hein. 2, puis 3, puis 4, puis 5,
et tous, et au fur et à mesure on accumule, si je puis dire.
On accumule.
Et alors, il y a aussi des chemins qui traversent dans ce sens-là et qui vont tous à la mer, bien sûr. Parce que la mer, elle tient une grande importance. On se retrouve tous à la grève. Tout le monde se retrouve tout l'été, sauf si on a envie d'être seul.
Voilà. Moi, c'était pour ça que je vous donnais rendez-vous ici, parce que ici, on a vraiment une vision d'ensemble de ce qu'est... la grande baie de Caraïma, quoi.
Benjamin Bréon.
Donc, avec à l'est, la grande plage de Caraïma. Ici, donc, le Quimperès et Roquevelen, qui sont les deux rochers qu'on voit. Et derrière nous, la baie de Goulvin, qui s'enfonce dans les terres et qui délimite, en fait, je crois que ça fait 7 km, les 7 km de ce qui est Caraïma, en fait, d'un bout à l'autre de la dune.
Et les gens, cette plage-là, elle est réservée aux gens de Caraïma ou tout le monde peut y aller ?
Non, y a pas de toute façon, c'est impossible, on n'a pas le droit de réserver une plage. Et puis il faut voir, déjà, ne serait-ce que cette plage-là, elle doit faire 3 km de long ou 4 km de long. C'est vrai que sur cette plage, il y a, disons, un lieu social carimaïen où se retrouvent les gens de Caraïma entre le 1er et le 15 août, qui est à peu près au milieu, avant le Méhan. Mais je veux dire, ça fait 100 mètres de large. Le reste de la plage, c'est une immensité déserte. Le 15 août, si vous voulez personne à moins de 50 mètres de votre serviette, c'est possible, quoi. C'est un lieu hyper protégé, notamment parce que l'eau dépasse rarement les 17 degrés. Ça caille toute l'année, on est orienté plein nord. En revanche, on a un paysage quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, la mer est magnifiquement grise. Et on voit même une tache de soleil qui se déplace là, avec les nuages qui bougent. On est sur ces cailloux magnifiques qui font, je crois, 15 mètres de haut. Et ça fait à peu près 7 km de long, je crois, en tout, qui ne seront jamais urbanisés.
Massivement au 15 août. D'abord au 15 août, il y a toujours une messe familiale qui est très très intéressante, qui est dans la chapelle, la petite chapelle que vous avez peut-être vue sur la palue, voilà, et qui est très petite et qui ne peut pas du tout contenir toute la famille, mais qui est toujours une très belle messe. Qu'on soit croyant, pas croyant, on y va avec grand plaisir parce qu'on y chante avec beaucoup d'entrain, et puis on sent une vraie cohésion là. C'est vraiment très très une messe. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais pas beaucoup à la messe, je vais vous dire, mais là j'y vais parce que c'est vraiment on se sent habité, on se sent appartenir à cette famille vraiment très fort. Donc à la messe, il y a effectivement ce qu'on appelle la ribote, qui est un mot un peu paillard pour c'est un dîner, on se retrouve le plus nombreux possible. Et le plus nombreux, ça peut être c'est jusqu'à 300-400 quand même. Hein.
Et c'est où, madame, ce dîner ?
Au clubhouse, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu des années où c'était côte de bœuf, un petit peu dans la foire. Il y a eu d'autres années où on appelait ça... les cuisines du monde, on faisait une équipe faisait de la cuisine pour 20, 30, etc. Puis comme partout, hein, l'imagination est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Mais on se réunit, on est quand même très nombreux. Et puis il y a une kermesse qui a bien 35 ans, elle aussi, qui a commencé de façon, la kermesse au départ, c'était pour amuser les enfants bien sûr, mais c'était dans le but de récupérer un petit peu d'argent qu'on donnait soit aux sœurs de l'école, soit à telle ou telle organisation. Et puis ça continue toujours, donc il y a une kermesse qui a son intérêt aussi, les enfants l'adorent. Voilà. Tout ça c'est toujours à base de bonne volonté. Des bonnes volontés qui quelquefois se découvrent qu'au dernier moment, et donc quelquefois c'est dans une joyeuse pagaille, mais c'est sympathique.
Un jour, la pauvre Justine,
j'arrive à Kerema, j'arrive à Kerema. Admirez les cousines, je sais pas où David vient chez moi. Admirez les cousines, en les critiquant pas, en les critiquant pas. Embrassez les vieilles tantes, je sais pas où David vient chez moi. Embrassez les vieilles tantes, en ne se piquant pas, en ne se piquant pas. Je sais pas où David vient chez moi. Savoir le nom des gosses, en ne se trompant pas, en ne se trompant pas.
Mais on se connaissait tous avant. C'est-à-dire qu'on rencontrait dans les chemins, c'est tante un tel, c'est oncle machin, c'est le fils de...
Et vous utilisez, parce qu'il y a cette... l'association a fait cet annuaire qui répertorie... Ah oui, ça, vous l'utilisez, ça, c'est vrai?
Déjà,
vous
savez à quoi ça utilise? Pour des adresses, des numéros de téléphone...
Pour trouver les âges des gens.
Et puis voilà.
Les âges.
Voilà.
Dans tous les dîners...
Quand quelqu'un triche avec son âge...
Pour retrouver, bah tiens, celui-là, c'est le fils de... Mais combien il a d'enfants déjà, et son fils qui fait ci. Et puis on voit ce que font les gens. Et puis même professionnellement.
Non, il est mis à jour très. Enfin, surtout sur Internet maintenant, parce que bon.
Professionnellement, il peut y avoir. Il y a plein de contacts des jeunes qui trouvent des stages, parce que un tel. Beaucoup d'entraide professionnelle aussi.
Beaucoup.
J'ai un fils qui a quand même trouvé du boulot au début parce qu'il a été aidé par un de Kerema, voilà. Et puis un qui est en Australie. Enfin, moi, j'ai une fille qui habite en Australie. Camille, ma fille Camille, dès qu'il y a un de Kerema qui arrive à Sydney, il lui fait signe. Ou il lui demande, t'as pas des tuyaux pour des appartements, des trucs, voilà. Il y a quand même un... Si, il nous sert à ça, l'annuaire.
Mais ça veut dire les 2000 personnes, vous les connaissez?
Non.
Non?
Non, il y a plein que je connais pas. Il y a plein que j'ai jamais vu... ça n'empêche pas, si je pars au bout du monde, si demain je dois partir à Sydney, je vais commencer par regarder, enfin, pas forcément commencer, mais je vais regarder tout de suite s'il y a des gens de Kerema qui habitent Sydney. Et s'il y en a, je vais les contacter tout de suite.
Des
bien
cousins,
sûr.
Donc,
ouais, des cousins. Ouais. De la même façon que quelqu'un qui arrive qui est de Kerema et qui m'appelle parce qu'il a besoin de je sais pas quoi, squatter chez moi une semaine, il n'y a pas de problème. Et je fais la même chose quand je vais ailleurs. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien.
Mais il y a un truc quand même à Kerema qui peut surprendre ceux qui ne sont pas de Kerema, justement, c'est qu'on a toujours été habitué, on a envie d'aller voir quelqu'un, bah on va chez lui.
Ça, au début,
on téléphone même pas en disant.
Ça m'a hérissé.
Moi, quand j'avais. Les gens viennent frapper chez vous ?
Non, ils ne frappent même pas quelquefois.
Oh, ils rentraient. Il ne faut pas exagérer. Non, mais ils arrivent comme ça. Et s'il y a quelqu'un. On a l'habitude d'aller se voir les uns les autres, comme ça, sans prévenir.
Vous avez envie de lire un bouquin, vous êtes carrément, même éventuellement, vous sortez de votre salle de bain presque à poil, ça, et il y a quelqu'un d'un seul coup qui est là. Bon,
oui, mais allez, ça, c'est comme ça. Nous, on a vécu dans Kerema et on fait comme ça. Parce qu'on estime qu'on est tous de la même famille et que... Voilà.
Et l'été, tous les étés, vous venez ici?
Alors l'été, ça, vous voyez le chemin là, au Dénôme, c'est ce qu'on appelle la grève des bateaux.
Oui.
Donc il y a tout Kerema qui défile. Alors, de temps en temps, il faut se cacher un peu. Non, je ne suis pas là.
Bien.
Non, il n'y a personne.
Non, bien tous les étés. L'été, ça se passe ici parce que, bon, le temps n'est pas génial et tout, mais c'est un endroit où il n'y a personne, quoi. On est entre nous et il n'y a personne.
Non, l'été, ça défile, là, quand même. Il y a la période infernale qui est 1er août, 15 août, où là, ça...
Non, mais infernal. Toi, tu trouves ça infernal. Mais les gens, ils sont ravis tous de se retrouver, en fait. Et on se retrouve dans les gens de la famille. Il n'y a pratiquement pas d'autres gens, ici.
Ça crée une communauté fermée.
Il y a une fermeture indiscutable. Mais qui, Dieu merci, n'est pas complète. Mon beau-père a épousé une Roscovite. Il y a eu un certain nombre de mariages avec des gens de Morlaix, de Saint-Paul, de la région. Mais avec des gens de Tréflèche, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Il y en a eu avec des gens de Plounévé. C'est-à-dire qu'on est... C'est un peu idiot de dire ça, mais on est plus à l'aise avec des gens un tout petit peu plus lointains qu'avec nos voisins immédiats. Parce qu'avec les voisins immédiats, il y a eu une longue série de rejets mutuels entre Plounévé et Tréflès d'une part, et Carême-Mar d'autre part. Parce que Carême-Mar, je le dis surtout quand mon épouse n'est pas là parce qu'elle a horreur du mot, mais a eu un tempérament de colonisateur un peu. Ils ont fabriqué une terre parce que c'était une terre qui ne servait à personne, qui était éventuellement submergée ou envahie par les sables ou n'importe quoi. Ils ont créé une terre. Et cette notion de colonisation, elle perdure aujourd'hui, même si aujourd'hui, les, Dieu merci, les niveaux de vie sont énormément rapprochés. Les gens de Tréflès, il y a des gens qui sont nettement plus riches, les gens d'origine de Tréflès, qui sont nettement plus riches que beaucoup de gens de Carême-Mar. Ça n'est plus du tout une question de richesse, ça l'a été au 19e, c'est sûr, au 21e, ça l'est absolument plus. Mais il y a toujours un relent de rejet, si greffe des raisons un peu politiques. Le fils de l'ancien instituteur d'école laïque de Tréflès en voulait beaucoup à mon grand-père, je crois, notamment parce que l'école laïque a disparu, parce qu'il n'y avait pas assez de gosses à l'école laïque, ils allaient tous à l'école des religieuses qui était soutenue par les Rousseaux.
Carême-Mar a donc eu une influence sur la politique locale, du coup, de par le soutien à cette école religieuse. Il n'y a pas un membre de Carême-Mar qui a été maire de Tréflès à un moment aussi?
Il y en a eu beaucoup. Louis Rousseau l'a été, Hippolyte Pichon a été maire de Tréflès, Jules Pichon a été maire de Tréflès, Pierre Lelon a été maire de Tréflès, Louis Pichon, mon beau-père, a été maire de Tréflès. Il y en a eu beaucoup, hein.
S'intéresse à l'histoire. À l'histoire c'est une belle histoire sociologique parce que c'est une histoire d'une tribu de républicains, des bourgeois, ce qu'étaient les gens de Carême-Mar, qui n'étaient pas des bourgeois riches, c'était des gens qui avaient fait des études, ils étaient polytechniciens, c'est une tribu de polytechniciens, et qui ont combattu quand même pour la République. Alors, ils ont construit des ponts, ils ont fait de la politique de manière militante, parce que la Bretagne, c'était le clergé et l'aristocratie qui dirigeaient le pays. Et eux étaient des gens qui venaient de l'extérieur, qui étaient républicains, qui ont essayé de se faire élire, qui ont fini par se faire élire ici. Donc, c'est aussi le sentiment d'être un peu les héritiers d'une histoire qui appartient à l'histoire de France, voilà. Mais à un niveau très modeste, hein, c'était, voilà.
Dans les Armand Rousseau, on est assez épouvantable, parce que mon arrière-grand-père à Félix, mon grand-père aussi, mon père aussi, et trois des frères de mon père à Félix. Il y en a qu'un qui n'est pas Félix, il a toujours été le raté de la famille, il avait fait les ponts et chaussées. Mais il n'a pas eu d'enfant, donc cette tare ne s'est pas propagée. Papa a loupé aussi son coup. Nous ne sommes que deux des quatre garçons à avoir Félix. Mais j'ai deux cousins germains qui ont Félix aussi, à peu près à la même époque que mon frère et moi. Et il y a toujours des polytechniciens dans la famille. Et à l'heure actuelle, c'est plus des polytechniciennes que des polytechniciens. C'est les gens.
Bon, ouais. Pourquoi ?
Bah, on aurait pu faire un bridge peut-être.
Bah, c'est encore possible ce soir ou demain si tu veux.
Tu pars lundi ?
Ouais, je pars lundi matin, mais ça m'empêche pas de vous.
Bon, bah, écoute, je vois ça et puis je te rappelle.
Tu envoies ça dans la France
pour moi. Oui, un cousin germain.
Et on a toujours cette belle vue qui va vers le Frout, c'est-à-dire la rivière, le fleuve, peut-on dire. Voilà l'énorme bastion dont vous me parliez tout à l'heure.
Ça, c'est la maison du temple.
C'est la maison du temple, voilà. Qui est une maison assez incroyable.
Donc ça, c'est des plus grandes maisons. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4 étages.
Ouais. Ouais. Elle est énorme. Pour moi, c'est une caserne.
8 fenêtres. Quoi. Ouais. Enfin,
elle est absolument énorme. Et alors, cette maison, donc, c'était la branche de Virginie du temple, qui était la troisième fille. Donc, ils ont habité ici assez longtemps, mais comme cette branche s'est pas mal éteinte, les derniers qui ont habité ici, qui s'appelaient Madeleine du Temple, qui avait épousé un pigeon d'ailleurs, parce que là, ça a été un des mariages, hein, elle a cédé sa maison à un de ses cousins, je saurais pas vous dire, un de ses cousins qui s'appelait Le Boucher. Voilà.
Alors, il y avait aussi, quand on était petit, tous les matins, mais là, quand on avait, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, peut-être même plus petit, on nous avait dit qu'on allait dire bonjour aux vieilles tantes, parce qu'il y en avait où on avait des bonbons et tout ça. Donc, on faisait le tour tous les matins, jusqu'à la maison du temple, justement. Donc, il y avait Tante Mes Voisins, la maison à côté, et on allait leur dire bonjour. On y allait on devait être 6 ou 7, et on avait des bonbons. Et la maison du temple, on avait très très peur parce que, ben oui, la maison du temple, c'est tout, tout sombre. Il y avait ce grand escalier et c'était peint. Il y a des fresques.
Ouais,
elle est incroyable, cette maison. Toutes les pièces sont peintes.
Un petit théâtre, en fait.
En fait, c'est une vraie, véritable œuvre d'art. Et c'est des peintres, ils se retrouvaient, les peintres un peu dans le post-impressionnisme, ils se retrouvaient là pour peindre. Et nous, on avait très très peur en bas de l'escalier parce qu'il y avait des espèces de bêtes, il était reproduit des bêtes.
Une jungle.
Oui, une espèce de jungle. Et on avait la trouille de rentrer là-dedans. Il y avait Tante Madeleine qui nous disait bonjour du haut de l'escalier. Et on ne voulait pas attendre trop longtemps en bas parce qu'on était paniqués là-dedans. Voilà. Toutes ces fresques, enfin, c'est peint, les murs sont peints. C'est des véritables œuvres d'art, quoi. C'est extraordinaire. Et malheureusement, cette maison, ils n'arrivent pas à. Elle est en indivision, ils n'arrivent pas à faire les partages et on suppose ce qu'elle va devenir parce que elle est un peu laissée à l'abandon. Voilà.
Nous on allait vraiment voir, mais c'est vrai qu'il y a un
Il y avait. C'était pour avoir des bonbons.
Voilà, voilà.
C'est ça. Alors vous avez été dans la maison du temple, paraît-il.
Bien sûr. On adorait, on se faisait peur. Et en plus, là, elle a été dégagée. La végétation était bien plus proche avant. Et c'était sombre, c'était... quand vous êtes petit et que vous voyez... On a l'impression d'une maison hantée, non, quand on la regarde.
Par l'esprit.
C'est encore une famille qui se dispute, qui l'a rachetée. Donc, il y a des histoires de famille, quand même. Si on vous dit le contraire, c'est faux.
Une des choses qui frappe quand on entend l'histoire de Kerema, c'est que cette terre a été transmise et a resté dans la famille sur presque 2 siècles. Comment c'est possible, ça?
Ce sont des règles tacites. Rien n'est écrit, rien n'est obligatoire. Les terrains peuvent très bien passer à d'autres personnes qu'à des gens de Kerema. D'ailleurs, ça se fait. Il y a des gens qui ont pu acheter des maisons et des terrains dans Kerema. Mais... Assez peu parce que d'abord on est de plus en plus nombreux quand même et tout le monde ne trouve plus sa place sur Kerema. D'abord parce que les permis de construire sont réduits comme peau de chagrin et puis parce que aussi quand vous avez des familles nombreuses, il y a beaucoup de familles très nombreuses, hein, un petit peu moins maintenant, mais même je pense qu'on continue à être un petit peu au-dessus de la moyenne. Eh bien, quand il y a un terrain qui se vend à Kerema ou une maison qui se vend à Kerema, il y a toujours quelqu'un de Kerema qui va être intéressé par cette maison ou par ce terrain et qui va le racheter pour lui.
Et vous le vendez en priorité à des gens de Kerema?
Oui, c'est pas écrit. Mais oui, en général, ça se fait en priorité aux gens de Kerema. Et d'ailleurs, très très souvent, on en parle à Kerema avant d'en parler à l'extérieur. Donc la plupart du temps, c'est racheté par les gens de Kerema.
Et du coup, il peut y avoir comme ça des jeux de glissement d'une propriété à l'autre, d'une lignée à l'autre, je veux dire.
Tout à fait. Et puis encore, il y a des familles qui réussissent plus. D'ailleurs, c'est ponctuel, hein, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes familles. Il y a aussi eu des familles dans lesquelles il y avait pas mal d'argent, de par le métier de tel ou tel, qui était banquier ou qui était je ne sais pas quoi, etc., puis qui avait plus d'argent. Bon, et puis, ben, pendant que c'est lui qui a le plus d'argent, il achète le plus de maisons. Donc, les maisons vont appartenir plus à une branche. Et puis après, ben, ça change, ça. Ça change, parce qu'avec le temps, ça peut être une autre branche dont les enfants ont mieux réussi, parce qu'ils ont fait des meilleures études, je ne sais pas quoi. Et ce sont eux qui achètent actuellement.
Je crois qu'il y a la maison de l'ardoise, c'est ça ?
La maison d'ardoise.
La maison d'ardoise. Ouais.
Et bien, c'est ce qui se passe avec justement cette maison d'ardoise. C'était pas une des branches les plus fortunées. C'était même une branche qui n'avait pas grand chose et qui maintenant s'est pas mal réinstallée dans Kerema. Et c'est très bien. Ça tourne. Et on va de nouveau avoir donc cette maison qui est pour nous très symbolique puisque c'est la première.
Mais symboliquement, donc c'est important, j'imagine, si cette maison-là, si une des maisons du fondateur passait en d'autres mains, symboliquement, j'imagine que ça serait quelque chose de...
Un coup dur. Ça ferait un tsunami dans Kerema. Ceci étant, personne ne peut s'y opposer. Cette maison a été habitée par Louis 5 ou 6 ans jusqu'à sa mort. Il est mort ici. Emma est morte 30 ans après lui et elle a passé l'essentiel de sa vie après lui, ici. Ensuite, ça a été Armand Rousseau, mon arrière-grand-père, qui a repris la maison, puis mon grand-père, puis mon père. Donc, c'est passé de façon très, très monarchiste, de fils aîné en fils aîné. Enfin, sauf qu'Armand Rousseau était le fils cadet. Mais c'était celui qui avait réussi, c'est celui qui a eu la plus brillante carrière. Il a été président du Conseil général du Finistère pendant 12 ans, il a été député, il a été sénateur, il a été ministre, et il est mort, hein, gouverneur général d'Indochine. Donc il avait parfaitement réussi. Mon père était le second des garçons, mais l'aîné n'avait pas d'enfant. Et quand ils ont fait les partages, papa a revendiqué haut et fort, hein, la propriété de cette maison. Je suis l'aîné des garçons de ma série. Je ne revendiquais pas du tout cette maison qui me faisait peur parce qu'elle est énorme et que c'est beaucoup de boulot pour l'entretenir. Ceci étant, papa m'a dit, c'est toi qui la reprends, tu peux te débrouiller avec, tu la reprends. Et c'est l'aîné de mes garçons qui la reprend après. Mes trois enfants se sont réunis entre eux pour savoir qui la reprenait. J'ai dit, moi ça me va, si c'est l'aîné des garçons, c'est bien dans la tradition familiale, donc il est propriétaire, je ne suis qu'usufruitier aujourd'hui.
Quand on va traverser la route et qu'on va voir les maisons qui sont de l'autre côté, soit ce sont les anciennes petites maisons, les petites fermettes installées par Louis Rousseau pour y mettre les paysans toujours dans le cadre de son grand projet de phalanstère, ou alors de l'autre côté il y a carrément des maisons complètement modernes, mais extrêmement modernes, il y a des maisons très très modernes. Et puis il y a aussi des braves petites maisonnettes faites par le cousin qui n'avait pas trop d'argent et qui s'est installé une petite maison de 5 pièces qui ressemble à n'importe quelle petite maison de lotissement. Il y a de tout, mais toujours ce principe, pas de barrière, chacun peut passer, même si ça commence à être moins respecté, ça. Vous voulez qu'on aille 3 minutes faire une incursion ?
Ah, volontiers, ouais.
On va aller voir, c'est amusant aussi. Bon, on peut même passer par là, parce que comme ils sont pas là, on peut aller faire ce qu'on veut. Voilà. Et voilà, et ici, donc on va traverser. Attention à la voiture rouge. Hein.
Ici, c'est la route de la grève.
Et alors là, il y a des maisons de toutes les générations. Donc celle-là, je vous dis, elle a à peu près, je dirais qu'elle a 15 ans, la première qu'on a vue. Ici, il y en a une autre relativement récente qui doit avoir, je dirais qu'elle a 30 ans, cette maison-là. Vous allez voir là sur votre droite. Ici, il y a encore une assez jolie maison bourgeoise qui, elle, doit avoir 50, 60 ans, je dirais. Et au bout, on arrive sur cette belle dune que vous avez vue avec Benjamin, c'est ça ?
Au début, on est quand même sur des propriétés très importantes, qui ont donc pu être divisées, redivisées, redivisées, etc. Ce qui finalement permettait à chaque génération de les diviser entre les enfants. Bon, là, on arrive à la fin de ce processus-là. Il n'y a plus de terrain constructible à Karama, ou pour ainsi dire plus. Donc, l'accession à Karama va devenir plus difficile pour un certain nombre de personnes, c'est assez probable.
La majorité des gens qui voudraient construire à Karama actuellement ne le pourront pas dans les générations à venir. Et je pense que c'est un... Je sais pas si c'est un problème, mais c'est une chose qui va en limiter la pérennité. C'est-à-dire la pérennité va se... Alors que la pérennité a toujours été en éventail vers l'extérieur, elle va forcément se refermer.
Et là, on a pratiquement terminé. Non,
oui, c'est vrai.
Donc, Hervé, tu t'en vas, c'est ça, et là, on te fait adieu.
Hervé s'en va.
Oui, mais alors, pour m'envoler au ciel, j'ai pas beaucoup de hauteur.
On va voir.
Cher grand-père, nous vous remercions d'avoir écouté toutes nos doléances.
Merci, grand-père, c'est ça.
Nous vous remercions.
Prêt.
Bon. Cher grand-père, nous vous remercions d'avoir écouté toutes nos doléances.
Construire où vous... Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était peut-être la dernière maison en construction.
Ah oui,
à côté de la Kerenma.
Après, c'est plus
à cause de l'eau. Vous voyez, je construis cette maison. C'est un rêve que j'ai depuis pas la naissance, mais depuis l'âge de 18 ans. Je pense que mon rêve, c'est ça. Avoir cette maison, pouvoir réunir mes enfants à l'intérieur. Savoir mes petits-enfants maintenant, c'est un rêve pour les petits ici. C'est la liberté de Karenma. Une maison, c'était ça mon rêve. Avoir une maison ici.
Et en plus, elle est collée à celle de tes parents. Donc c'est
elle est collée à celle de mon papa et de ma maman. Ouais.
Mais que se passe-t-il ici ? J'étais là, bien tranquille, bien rangé dans mon tombeau. Je coulais des jours heureux sans souci. Et vous, en bas, vous vous plaignez. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Quelque chose ne va pas ?
Ben, grand-père, puisque vous êtes là, on va vous dire. Votre affaire, votre kérenma, là, vraiment, c'est raté. Tout le monde se plaint. Des plus petits ou plus vieux. Vous auriez quand même pu faire attention. Choisir un autre endroit, je ne sais pas, moi, plus chaud, plus sec. On ne vous en veut pas, bien sûr. Mais quand même, écoutez les petits.
Grand-père des idées, t'en as eu. Mais je crois que la plus farfelue, c'est d'avoir mis si peu de la mer.
Sur les dunes de Karenma, avec Dominique Bréon, Jacques Rousseau, Georges-Éric Touchard, Muriel Fayot, Hervé Alain Launay, Nastassia Goldfarb, Véronique Madinier, Jean-Claude Lambrez et Benjamin Bréon. Attaché d'émission, Christine Bernard et Yves Etienne. Coordination, Irène Omelianenko. Merci à Isabelle Lemercier, Camille Garin, Danique Rousseau, Solène et Laurent Sibel. Prise de son, Michel Gassic. Mixage, Julien Douminc. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Diffie Mariani pour Sur les Docs.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour la cousinade, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, quatrième épisode, rendez-vous au camping du Perroquet.